Alors, il y avait donc cette session réponse à vos questions. Donc, nous avons envoyé au préalable vos questions. Vous avez pu voir, pu constater que pas mal de ces questions donc, avaient été prises en compte par Véronique et donc a déjà répondu à ces questions ainsi que pour les aspects pratiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de les revoir vite, rapidement, pour voir si éventuellement on n'en a pas loupé quelques-unes. Comme ça, vous avez donc, les personnes ici peuvent répondre à ces questions. Donc, les questions qu'Isabelle a regroupées, un peu toutes les questions qui étaient communes, donc il y avait pas mal de questions sur quand est-ce qu'on peut faire ou non ces demandes au niveau des prescriptions, donc ça on y a répondu. Comment se procurer les kits, Elian vient d'y répondre. Prix de ces dosages et prise en charge par organisme assureur, donc on l'a également abordé. Interprétation des enzymes hépatiques NASH, stéatose, alcoolique, ça n'a pas été revu ici de manière détaillée. Moi, je propose que si on veut parler de ce sujet-là, que ce soit éventuellement fait à part, parce que ça nécessite... C'est pas simplement sur une réponse comme ça, ce serait tout un sujet un peu... Voilà, je pense que déjà, en termes de quantité d'informations qu'on avait demandées, c'était déjà pas mal. Voilà, ce genre de sujet, on pourrait le développer éventuellement en ultérieurement. Alors, comment tester les intoxications aux métaux lourds? Je ne sais pas si vous avez ça dans...
Ça se fait essentiellement au niveau urinaire. Alors c'est vrai que tout un temps on parlait de faire des analyses chez nous, mais ça ne fait pas ça chez nous. Donc voilà, et sur les feuilles de demande chez nous, il y a une sorte de protocole avec toute une série d'analyses qu'on peut demander.
Alors, dosage des SNP et interprétation.
Dosage des SNP.
Je pense que c'est
vraiment des labos génétiques.
C'est labo génétique et donc c'est un lien simulable. D'autre part, je pense que ça tombe peut-être un peu en dehors de notre compétence entre guillemets pour pouvoir Donc là, je pense que il faut que ça passe par un médecin spécialisé avant de venir chez nous.
Si je peux juste dire. Juste pour rajouter quelque chose, c'est vrai que certaines analyses peuvent être intéressantes par rapport au suivi. Véronique parlait du gluten tout à l'heure, des choses comme ça, avec les analyses qu'on peut proposer là-dedans. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un patient ou une patiente chez qui on décèle ce problème-là, ça vaut peut-être la peine de tester le reste de la famille parce qu'il y a un facteur héréditaire qui joue. Voilà, maintenant, Véronique en parlait aussi. Notamment dans l'infertilité, on se rend compte qu'il y a pas mal de relations entre l'intolérance, un problème lié au gluten et des problèmes d'infertilité. Donc plus de 80-90% a priori des femmes qui ont un problème de fertilité seraient intolérantes au gluten. Donc là, ça vaut la peine des fois d'aller investiguer même de manière génétique, mais là évidemment ce sont des problèmes plus importants, si je peux dire ça comme ça, qui demandent des investigations quand même un peu plus profondes et plus importantes.
Je crois que tu peux garder, puisque c'est dysbiose, candidose, ça a été abordé.
Je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ça, suite à la présentation. Alors, un patient peut demander évidemment son protocole, ses résultats, par rapport à ce dont on a parlé, c'est un droit pour le patient. Est-ce qu'il peut analyser les résultats? Il peut toujours essayer. Maintenant, est-ce que ce sera une analyse pertinente? Tout dépend son niveau de formation scientifique, mais s'il n'est pas médecin ou s'il n'est pas spécialisé en nutri ou autre, il risque d'avoir du mal. Même si nos protocoles sont très bien faits et qu'on donne des conseils en nutrition et en micronutrition, mais ce sont simplement des conseils assez classiques et globaux pour évidemment pour la micronutrition ou pour les complémentations, évidemment, c'est pas de marque, puisqu'on n'a évidemment aucun accord avec les sociétés. Donc évidemment, après, si vous devez proposer une complémentation à quelqu'un, que vous proposiez du TerraScience, du Pidège, du Pharmanor ou n'importe quoi d'autre, nous, on s'en fiche un peu.
Hyperperméabilité, ça a été abordé. Oui. Marqueur cardiovasculaire, on a parlé de l'homocystéine.
Oui.
Autre marqueur.
Voilà, il y a d'autres marqueurs intéressants. J'avais laissé de la documentation, mais si vous n'en avez pas pris, je peux toujours en réimprimer, ou si vous n'en avez pas, vous me donnez vos coordonnées, je ne vous les ai pas envoyées. Donc il y a plusieurs analyses plus récentes qui sont soit sorties, soit c'est une autre, comme on en parlait tout à l'heure, avec les progrès de la science, où on va analyser différemment le test. Donc évidemment, il y a le LP petit a, qui est un marqueur génétique chez les gens qui ont trop de cholestérol. Donc là, ça peut valoir la peine, puisqu'il y a des familles où on constate qu'il y a trop de cholestérol, mais c'est de manière génétique. Il y a le LP-PLA2, qui est un marqueur cardiaque très intéressant, parce que lui va plutôt montrer l'inflammation des vaisseaux sanguins, mais surtout va montrer une instabilité de la plaque d'athéro. Donc forcément, chez certains patients à risque d'AVC ou de problèmes cardiaques, ça peut être intéressant pour un meilleur suivi, évidemment. Et alors, il y a la dernière chose, c'est la troponine ultrasensible. Donc, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle, là, du tout? Vous connaissez, j'imagine, la troponine ou pas? Donc la troponine, pour rappel, c'est un dosage qui se fait en aigu quand on suspecte qu'un patient est en train de faire un infarctus du myocarde. Et généralement, il est utilisé en aigu. Et c'est un peu comme la CRP et la CRP ultrasensible, la troponine et la troponine ultrasensible. Qu'on va aller voir avec la troponine ultrasensible, c'est prédire, ou en tout cas mieux catégoriser les patients à risque. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut le faire aussi bien en prévention primaire que secondaire, chez des gens qui n'ont pas forcément de facteurs de risque a priori. Alors, c'est une analyse qui ne doit pas se faire tout le temps, vous le faites une fois, vous avez déjà une idée, et là, ça vous permet de mieux suivre votre patient.
Alors, intérêt LDL par les anticorps LDL oxydés, donc ça, on l'a abordé. D'autres questions par rapport à ça? Comment interpréter les résultats? Interaction possible avec certains traitements en cours?
Ça paraît assez logique.
Oui, voilà, on a dit, ça dépend. Je pense qu'il faut être, comme on a dit, dans l'interprétation des résultats, toujours être prudent. Et donc, c'est en collaboration avec le médecin, forcément, par rapport à sa propre interprétation. Maintenant, on peut avoir, en fonction de son alimentation, comme on a vu, avoir un impact aussi sur certains marqueurs. Et donc, il y a des précautions à prendre. Et notamment par rapport à certains traitements, le médecin vous suggérera d'arrêter peut-être un traitement particulier avant la prise de sang, notamment pour tout ce qui est thyroïde et tout ça. Voilà, donc ils prennent des traitements quotidiens. Et c'est le médecin qui décidera si oui ou non il faut arrêter ou pas, parce que lui jugera qu'il y a un risque d'interférence. Donc vous pouvez peut-être juger par rapport à l'aspect alimentation ou complément alimentaire. Tout ce qui concerne les traitements, mais c'est de l'ordre donc aussi médical, c'est le médecin.
La liste géographique des médecins qui prescrivent des analyses, on n'en a même pas une nous-mêmes. J'en ai même pas une moi-même. De toute façon, je pense que Pierre en a parlé. Le but, c'est de ne pas vous donner une liste de médecins qui font habituellement des analyses nutritionnelles, parce que c'est forcément, ce sont les médecins nutritionnistes qui vous enverront pas leurs patients, ils préféreront les garder pour eux. Donc je pense que dans votre intérêt, c'est peut-être trouver une source de chez vous. Je peux regarder avec vous si je connais des gens qui sont assez ouverts, et en discutant avec mes collègues qui s'occupent de la délégation, on va dire auprès des médecins généralistes, on peut toujours voir ceux qui sont plus ouverts à ça. Mais je pense que dans votre intérêt, c'est plutôt d'essayer de voir autour de chez vous quels sont les médecins qui seraient ouverts et qui seraient prêts à collaborer avec vous. et qui serait capable ou d'accord de vous envoyer les patients quand ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir les suivre et que ce soit mieux. Maintenant, il y en a aussi parce que...
Ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a quand même des médecins nutritionnistes qui envoient des nutrithérapeutes.
Il y a des médecins qui peuvent vous envoyer aussi beaucoup de patients parce qu'ils n'ont pas envie de s'ennuyer à faire un plan alimentaire qui va leur prendre trois quarts d'heure et leur expliquer c'est quoi le bon petit déjeuner. Par contre, faire les analyses et donner les compléments, ben ça va plus vite. C'est une biologie, donc ça peut être dans les deux sens. Mais moi, je n'aime pas ce terme médecin ouvert ou médecin fermé. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de médecins fermés autour de moi et c'est notre rôle aussi de les ouvrir quelque part. Parce que, et ça, ce n'est pas justement vos connaissances scientifiques qui vont permettre. Je pense que ce n'est pas des médecins fermés, non, ils n'ont pas compris. Et je pense que c'est aussi notre rôle, par les documents qu'on fait, par les réseaux sociaux, par le site internet, par votre communication, on va ouvrir de plus en plus les médecins à la nutrie. Et ça, c'est notre rôle. Donc, c'est pour ça, ne partez pas sous des a priori à ce médecin-là. J'y vais pas, il est fermé. Ben non. Moi, d'expérience, j'en ai eu beaucoup autour de moi qui étaient fermés. Mais à force de leur expliquer, et voilà, et sans faire le malin, y aller progressivement, voilà. Et dans le but commun, c'est quoi? C'est pas de faire le malin, c'est que le patient au final aille mieux. Et si on a justement le même objectif que le patient aille mieux, et on a ce point commun avec le médecin, c'est qu'on a le même patient, donc on peut l'aider d'un point de vue nutritionnel. Ben voilà. Et quand il a bien compris ça et qu'il vient, parce que c'est ça qui crée la frustration chez le médecin, c'est qu'il voit qu'on vient sur ses plates-bandes. Et à juste titre, il peut se dire, attends, t'as pas fait ce temps d'études, mon gars, tu vas commencer à dire, mais non, on vient justement pour nous, notre rôle, parce qu'on peut aussi prétendre en savoir beaucoup plus que lui en nutrition, puisque il faut remercier le médecin pour savoir ce qu'ils savent au niveau nutrition, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on peut aussi valoriser nos compétences en nutrition, mais voilà, faites pas, voilà, il faut qu'ils comprennent ça, et si la mesure, et si vous êtes pondéré, souvent, alors toujours, vous aurez toujours des gens très très fermés, mais dans la majorité des cas, ça se passe plutôt pas trop mal. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais il n'y a pas plus tard qu'à 15 jours, on m'a invité à la clinique de la douleur, des anesthésistes, des kinés, des ostéopathes, parce qu'ils veulent qu'ils vont mettre des protocoles pour des patients qui sont en douleur. Et ils sont conscients, et j'avais le service de diététique qui était là pour avoir une alimentation anti-inflammatoire qui diminue la douleur. Donc c'est cette ouverture-là qui se fait même dans les hôpitaux. Je dois aller à la Citadelle former les 25 diététiciennes d'oncologie. Donc voilà, mais parce qu'on n'arrive pas avec des gros plans de mort, les nutrithérapeutes, on sait mieux où. Non, on arrive avec des connaissances qui n'ont pas été partagées. Le but, ben voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos patients aient mieux? Parce qu'il y a des connaissances qui sont là et elles ne sont que dans les livres. Et malheureusement, quand tu vois les plateaux repas, ben, ils en profitent pas. Alors on sait. Mais à un moment donné, il faut apporter. Nous, on peut, comme on va vous présenter le travail qu'on a fait avec la brochure, l'enseigne et tout ça, maintenant, on va vous mettre à disposition des outils pour rentrer. Et la biologie fait partie des outils qui peuvent vous permettre de rentrer, si vous voulez. Et parce qu'on n'a pas le temps de vous montrer, vous l'aurez, mais je dis, le but aussi de la biologie, c'est pas mettre simplement cocher ça. On a aussi mis une petite explication. Un peu avec le livre qu'on a écrit avec Véronique, quand vous aviez les biologies, ben, vous aviez une petite explication, parce que ben, voilà, le médecin qui lisait le livre ben, pouvait se dire, ben, voilà, je n'ai pas compris pourquoi il demande ça. Donc on a chaque fois mis une petite explication, pas infantilisant non plus, hein, parce qu'il faut doser. Et je veux dire, avec cette explication, et c'est intéressant aussi pour le patient. Vous voyez, quand on augmente l'homocystéine et qu'on voit qu'une bonne homocystéine permet de prévenir le cancer par un meilleur catabolisme des œstrogènes, tout ça, le patient comprend aussi. Donc ça va être un outil aussi pour vous, pour le patient, pour rentrer. Et ça, c'est un outil, je veux dire, intéressant aussi pour faire des contacts avec le monde médical, et de la bonne manière, pour moi. Parce que des fois, vous voyez, c'est pas noir ou blanc, comme tu l'as dit, il n'y a pas une loi qui régit ça. Et les conflits que vous pouvez avoir avec un médecin et tout ça, c'est d'ordre souvent émotionnel. C'est que ça qui détermine ça. C'est une frustration, c'est ça. Donc je dis, vous ne pouvez pas sortir l'article de loi. Non, j'ai respecté, je n'ai pas dit le mot santé, je n'ai pas dit patient, vous voyez. Et ça ne sera pas à cause de ça que vous aurez des ennuis. C'est des fois l'émotionnel, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à communiquer. Et ça, il ne faut pas. On apprend tout le temps ça. Mais c'est pas.
Concernant les urines de 24 heures ou 12 heures pour tout, non, pas forcément. Sur nos demandes, généralement, quand on modifie un peu ou on essaye d'orienter quelque part, c'est pas pour, C'est pas pour nous moquer des patients ou des médecins, c'est simplement le côté pratique qui va jouer. Parce que si vous avez un adolescent ou une adolescente de 17 ans qui doit faire des neurotransmetteurs ou même un adulte, ben, prenez votre peau et urine de 24 heures à l'école ou au boulot. Ben, c'est toujours un peu délicat, donc c'est pas toujours évident. Alors que quand on fait 12 heures, ben, on est généralement peut-être chez soi et c'est un peu plus pratique à faire, tout simplement. Et on essaye de voir le côté pratique des choses, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pour faire des analyses payantes, avec un supplément, et que ces analyses, ben, les résultats ne donnent rien du tout, c'est un peu dommage pour tout le monde, c'est dommage pour nous, parce qu'on ne peut pas vous donner un service optimal, c'est dommage pour le patient, parce que d'un, il a payé et... il a dû s'amuser à faire pipi pendant 24 heures dans un pot, etc. et que ça ne donne pas de résultat. Et pour vous, ben, ce n'est pas intéressant non plus, parce qu'après, pour le suivi de votre patient, vous n'allez pas savoir travailler de manière optimale.
Donc l'iode, c'est 24 heures.
Oui. Ouais. 24 heures, neurotransmetteur, 12 heures. Ouais. Voilà.
On a déjà parlé
Toutes les normes des hormones, elles sont dans le livre aussi, dans le tableau. Là,
oui, voilà. Donc, vous allez avoir les slides, la présentation, où vous avez justement ces normes labo, et puis les suggestions faites par SIMLAB aussi pour être dans les valeurs optimales. Donc, ça vous sera fourni.
Petite pub pour Véronique Liès. Elle a sorti un livre sur les hormones. Oui. Bizarrement, dans le livre, toutes les normes sont dedans. Je ne savais pas pourquoi, mais... Donc, si vous voulez, il y a toujours moyen de se fournir. Je ne comprends pas trop la question. Comment mettre en parallèle avec les analyses sanguines sur les mêmes paramètres? La personne qui a posé cette question est présente dans la salle, s'il y a moyen de préciser.
Si la personne reconnaît sa question, peut-être la
reformuler.
La reformuler, peut-être. Ok. Comment sont déterminées les valeurs de référence des analyses?
En fait, on avait un peu parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que les valeurs de référence sont généralement basées sur une population. Donc, si vous avez une population avec une santé, ben, vous allez prendre... les valeurs de référence aux États-Unis, avec le mode de vie que la plupart des Américains ont. Vous prenez les valeurs de référence chez les centenaires au Japon, mais les références ne seront pas les mêmes. Donc ce sont des valeurs généralement un peu statistiques basées sur une population. Et les valeurs santé, ben, sont dans le but d'optimiser au maximum la santé. Donc, c'est comme ça qu'on gère généralement les valeurs de référence.
C'est quand même les valeurs que chaque laboratoire se fait.
Chaque laboratoire peut, s'il le désire, mettre les valeurs qu'il désire. C'est juste qu'il y a quand même certaines valeurs qui sont communes parce que ben, on constate que c'est comme ça, quoi, c'est tout.
Tu n'as pas, publié pour l'OMS quelque chose qui est mondial et auquel tout le monde est supposé se référer.
Ben, ça devient compliqué parce qu'en fait, Véronique parlait du sélénium dans la présentation. Déjà, dans toutes les régions du monde, déjà, le sol n'a pas la même teneur en sélénium. Donc, de nouveau, trouver des valeurs.
Mais d'un point de vue national, par exemple, comment est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un point de vue national pour uniformiser les valeurs?
C'est compliqué dans le sens où il y a déjà les médecins ne savent déjà pas se mettre d'accord. Alors, tu sais trouver des choses, mais est-ce que tous les médecins vont être d'accord? Ben non, puisque quand on voit déjà qu'un médecin généraliste classique va te dire que sa vitamine D, aux alentours de 30, il est content, alors que nous, on ne sera pas content. Donc, voilà, de nouveau, on
en... C'est pour ça que SIMLAB met optimal en dessous.
C'est ça.
Donc, tu as valeur de référence, 30 à 60, et puis parfois, tu as, bon, on n'est pas d'accord, valeur optimale, et alors, ils mettent autre chose. Mais sinon, il y a quand même des normes qui sont établies, quoi.
C'est le taux d'erreur possible des analyses, ça c'est... quel est le taux d'erreur possible lors des analyses. Il peut en avoir beaucoup en fonction des conditions du patient. Et ça, je trouve ça dommage que les médecins ne mettent pas une petite feuille avec 5 à 10 points. Et ça, au CFNA, on vous avait expliqué comment une analyse doit se faire. Par exemple, si vous avez un gars qui va courir à 22 heures la veille au soir, ça peut fausser certains résultats. Véronique a dit quelqu'un qui ne mange plus pendant 2 jours, ça va fausser les résultats. Donc ça, il faut, à un moment, le dire ne suffit pas. Okay, on va vous mettre à disposition...
Donc il y a le deuxième document.
Voilà, un document que vous remettrez au patient. Et ça, ben voilà, ça va vous permettre d'avoir moins d'erreurs. On peut les limiter.
Et est-ce que le timing, le transfert des concentrations, ça peut aussi jouer?
C'est là qu'il faut travailler avec des bons labos. Et il y en a qui font peu attention à ça. Voilà, il y a des choses qui doivent être mises sur glace. Et nous, les demandes, des fois, sont plus spécifiques. Donc, des fois, on a affaire à des infirmières qui ne sont pas, des fois, suffisamment formées. Et elles sont là, la zonuline et tout ça, c'est un truc spécial. Donc, ils ont, c'est pas habituel, on va dire, pour le moment. Donc, c'est clair que si vous connaissez un labo ou un médecin ou un centre de prélèvement, vous savez que là, ça va être bien pris en charge. Ben, moi, j'en connais 2-3 dans mon région. Je me motive à aller là parce que j'ai déjà eu des surprises, des homocystéines à 30. Ça va juste pas de sens. Alors, que tu en refaisais, c'était bon. Donc, c'était...
Donc, qu'est-ce qui détermine ?
Le labo le refait hein, quand tu as des valeurs un peu débiles comme ça. Ça
oui, comme Véronique le dit, ça peut arriver quand vous avez des valeurs tout à fait hors normes, mais qui sont vraiment inexplicables. On recontacte le patient, on refait une analyse, généralement à ce moment-là, elle sera gratuite. Et pour vérifier, pour être bien sûr que ce taux qui est complètement ahurissant soit vraiment le reflet de la réalité et que ce ne soit pas un truc... dû à une anomalie de l'analyse.
Et ça, par rapport à la dernière question, l'homocystéine, ça je ne sais pas. Bon, il y a certains labos qui disent que ça doit être mis sur glace. Et maintenant, il y a des tubes spéciaux. Voilà, donc on ne se tracasse plus que ça soit sur glace. Voilà, c'est la question.
Vous êtes centrifugé dans l'œuf. Donc, la descente qui
d'habitude
ne centrifuge pas,
là,
cette analyse-là, c'est
une descente qui fait. Chez SINLAB, on a sorti des tubes spécifiques. Qui peuvent rester entre guillemets un peu plus longtemps. Évidemment, vous allez faire une homocystéine, vous n'allez pas mettre le tube en centrifugeuse 4 heures après, ça ne peut pas se lever. Pour le zinc, même chose, on a des tubes spécifiques pour le zinc, parce qu'il y a, on va pas le cacher, il y a un an et demi, on s'est rendu compte que la plupart des analyses du zinc étaient fort basses, chez tout le monde.
Et on...
C'était élevé ?
Ah, c'est la bête.
C'était trop élevé et on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Donc on a fait des nouveaux tubes qui permettent de normaliser les analyses.
Et par rapport aussi que tu disais, par rapport aux interprétations, et ça Véronique l'a rappelé, mais j'aime bien le rappeler, des patients qui ont une TSH des fois 2,5-3, les gens vont être rap à plat, donc vont être en forme, ça va. Et il y a certains médecins maintenant qui disent « Ah, t'es au-dessus d'un ennemi, c'est foutu, c'est ça. » Alors on focalise pour le thyroïde. Et on en oublie de questionner le patient. Donc n'oubliez pas aussi, pendant votre formation, que vous avez eu des questionnaires cliniques, utilisez-les. Ça va ? Donc n'hésitez pas à les montrer au patient et de corréler les résultats de la biologie et alors le questionnaire. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde médical, des fois, fait peu. Hein, ces questionnaires, sérotonine, dopamine. On vous a donné aussi tous les symptômes d'un foie surchargé. Vous voyez, donc on a plein de questionnaires et des fois je me rends compte que beaucoup oublient de les utiliser et ils se focalisent plus que sur la biologie, dont les deux sont importants parce que sinon on a chacun nos sensibilités différentes. J'ai des dames à une ferritine de 20, ben elles sont bien, et j'ai la patiente avant qui a une ferritine de 25, elle est raplaplate. Vous voyez, donc c'est important de rappeler et de faire justement ce parallélisme.
Ben, oui, comme Pierre le dit, de toute façon, si vous vous basez juste sur les analyses, ben, il faut se baser aussi sur la clinique et faire le parallèle entre la clinique et
voilà.
Le résultat.
Et nous, comme on ne reçoit pas en 5 minutes, on peut se permettre de prendre du temps justement pour aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est notre plus-value aussi.
Bon, en termes de questionnaire, il y a des médecins, enfin, des personnes qui ont travaillé justement pour développer ces questionnaires par rapport à la clinique et qui sont intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Klaas, qui lui s'est spécialisé plutôt justement sur la thyroïde. Et sur son site, vous pouvez trouver un questionnaire qui adresse cette hypothyroïdie fonctionnelle. Et donc là, on est typiquement dans des symptômes, parfois, à laquelle on ne pense quand même pas. Et donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de questionnaire pour aider et pouvoir aussi discuter avec le médecin en disant, mais voilà.
Oui, il y a le docteur Hertog aussi dans son livre, il y a des questionnaires sur la DHEA, il y a des questionnaires sur le cortisol, ouais, il y a des choses.
Sur le SIBO aussi, enfin voilà, il y a franchement utiliser ça, parce que ça, c'est des outils justement que vous pouvez vraiment utiliser et partager.
Qu'est-ce qui détermine les analyses réalisées par le labo et ceux qui ne le sont pas? On a un comité scientifique, on a, comme vous avez vu tout à l'heure, 22 biologistes avec un responsable qui sont censés déterminer la vision, le pipeline dans lequel on veut aller. Mais ça peut être soit parce qu'il a décidé que, et la direction, ça peut être simplement parce qu'on a une machine qui est capable de faire les analyses et que si on n'a pas la machine et que c'est une machine qui coûte 3,5 millions d'euros et que vous avez 5 prélèvements par mois, on peut dire ce qu'on veut, mais ça peut être ou heureusement ou malheureusement, ça c'est de quel point de vue on se place, mais ça reste quelque part, la santé reste quand même aussi malheureusement un business. Et donc que si l'analyse n'est pas rentable, certains styles de médicaments, même des traitements anticancéreux, c'est pas rentable, on le retire du marché, et le patient, même si chez lui ça fonctionnait, il ne sait plus avoir accès à ce médicament-là, donc ça peut être simplement aussi ce genre d'analyse, ou bien si le labo décide d'aller dans une certaine direction, comme l'analyse génétique sur le dépistage du cancer colorectal, on espère pouvoir bientôt proposer d'autres analyses dans ce style-là pour d'autres pathologies. Donc là aussi, il faut avoir les ressources humaines et financières et au niveau du matériel pour pouvoir faire ces analyses. Et il y a d'autres labos qui décident à ce moment-là de prendre une autre direction. Les facteurs rendant les échantillons inutilisables, Pierre en a parlé, ça peut être simplement le patient en lui-même qui fait des choses qui
vont fausser les résultats.
Ça peut être l'infirmière ou le préleveur qui ne va pas bien faire son boulot, ou en tout cas pas de manière optimale. De nouveau, je reviens sur le test du dépistage cancer colorectal, c'est un dépistage par prise de sang, mais on va aller chercher de l'ADN tumoral dans le sang du patient. Donc ça veut dire que si le préleveur, qu'il soit médecin ou infirmier, va mettre son ADN sur le tube, forcément ça va le fausser les résultats. Les conditions de maintenance, c'est sûr que si pendant l'été il fait 35 degrés et que la petite boîte du médecin est en dehors de chez lui et elle est en plein soleil à 35 degrés.
Et toi d'expérience justement, tu pourrais nous conseiller plutôt d'envoyer les gens aller faire la biologie dans un centre de prélèvement ou d'aller chez leur médecin pour limiter justement les erreurs?
Si on veut vraiment dire aller directement dans un centre de prélèvement.
Parce que là, vous en avez justement vous.
Parce que là, on en a beaucoup. On en a plus ou moins 150, plus ou moins, ça change un peu tout le temps. Donc on est aux alentours de 150, 160 sur la voie de Bruxelles. Maintenant, ce qu'on vient de faire aussi, c'est qu'on a changé toutes les tournées chez le médecin pour pouvoir proposer 3-4 passages chez le médecin, justement pour éviter d'avoir un temps de latence trop important entre la prise d'échantillons et la mise en analyse. Par exemple, il y avait un médecin du côté du Havre qui faisait ses prises de sang, mais qui généralement laissait ses prises de sang jusqu'à 13 heures. Et notre chauffeur passa à 13h. J'ai été le voir, parce que je le connaissais bien, je lui ai dit, est-ce que... Parce qu'il me dit, oui, mais toutes mes prises de sang ne seront pas faites. Je dis, mais c'est pas grave, on envoie un chauffeur à 10h, qui prendra déjà ses prises de sang-là pour pouvoir les amener au labo, et 3h après, un autre chauffeur va repasser pour prendre des prises de sang qui auront été faites après. Donc, comme dans tout, si une lab aussi est dans un processus continu en termes d'amélioration du service, et donc quand on peut essayer de changer les choses pour les améliorer, on essaie de le faire.
La dernière, on va répondre.
Ouais. Voilà.